Bonjour et bienvenue à l'Assemblée, bienvenue au Sentier et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aussi par Internet. On est content que vous soyez là. Merci à toute l'équipe de Louange, merci à Jonathan aussi pour son beau chant. Quelle belle confession de foi, plusieurs doctrines dans ça, l'incarnation, la Trinité, la divinité, vraiment, vraiment édifiant. Moi, j'aimerais commencer ce matin avec un mot. Juste un mot, et il y a quelque chose qui va venir à votre esprit, une image qui va venir tout de suite à votre esprit avec ce mot-là, d'accord? Vous êtes concentré? Vous êtes prête? Viral. Oui. Ceux qui travaillent dans le milieu médical, tout de suite, pensent à virus, d'accord? Mais évidemment, on sait que dans les dernières années, avec toute cette modernité, avec toute la question d'informatique et tout ça, maintenant, le mot viral fait penser aussi, c'est étendu, on l'emploie maintenant depuis quelques années dans le domaine de l'informatique et les vidéos. On a entendu les vidéos virales, hein, toute la vidéo virale, toute une affaire. D'ailleurs, même quand à Noël, ma gang vient, mes petits-enfants, on est plusieurs, puis on s'assoit dans le salon, puis on écoute, on regarde des vidéos virales. Eh bien, je vais vous en montrer une d'ailleurs ce matin. Hein, on va commencer avec une vidéo virale. Imaginez, c'est une personne, un homme qui est en vélo, puis il fait du vélo, puis il suit une piste cyclable. Et là, il arrive, oh, vous avez déjà l'image, il arrive à une place où il y a quelqu'un qui est mal stationné, et puis là, ben regardez bien ce qu'il va faire. OK?
Caramba, velho! Aê!
Aê! O senhor tá aprendendo a parar em ciclovia, tá. Mano.
Aê!
Certinho! Nossa, não é pra ficar parando assim, não.
Aê!
La vie continue et la vie est belle. Hein? Pas un problème, c'est une voiture dans le chemin. On la tasse. Combien de gars seraient capables de faire ça ici? Je ne sais pas. Hein? Peut-être Jonathan. Jonathan sera probablement capable. Croyez-le ou non, je l'ai déjà essayé. Oui, puis je me suis placé, j'ai essayé ça. Et j'ai tiré. Les gars, il faut essayer ça. Hein? Fait qu'à un moment donné, j'essaye ça. Puis je tire. Puis à un moment donné, tu sais... On nous dit maintenant de plus en plus, écoute ton corps. Puis là, à un moment donné, je tire, puis c'était pas la voiture qui devait, c'est ma colonne qui baissait. Alors là, il y a quelque chose qui me dit, t'arrêtes ça là, écoute ton corps. Et je vais arrêter ça là. Viral. Le mot, le dictionnaire va même définir le mot viral aussi, va ajouter, parce que le mot s'est étendu au fil des années. On va l'employer dans le mot, dans le domaine du commerce aussi. Voici ce qu'on dit, dictionnaire, voici comment ça définit le mot viral. Technique de marketing où le message publicitaire est initialement présenté à un nombre réduit de personnes sur l'enthousiasme desquelles on compte pour qu'elles relaient et le propagent le message massivement. Hein, les compagnies souhaitent tout ça, hein. Tu présentes un message de ton produit à quelques personnes réduites, là, et t'espères que les gens seront tellement emballés par ça et inspirés qu'ils vont partir et vont répandre le message massivement. Eh bien, que vous le réalisiez ou pas, c'est exactement la mission que le Seigneur nous a confiée. Si vous vous en rappelez, dans Matthieu 28, c'est le mandat, la mission que le Seigneur a donnée à une poignée de main de disciples. Et il dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors voilà Jésus qui prend une poignée de main de personnes, et le mandat, la mission qu'il confie aux gens, c'est de s'en aller et aller répandre massivement ce beau message de l'Évangile et du salut en Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est notre mission. En d'autres mots, Jésus nous demande de devenir une église virale, de devenir un chrétien viral, une personne qui a la puissance du Saint-Esprit en lui, une vie transformée à un point tel qu'elle a un impact sur les gens autour, et les gens autour regardent et disent, « cette personne a quelque chose que les autres n'ont pas, je vais aller le voir, je vais lui demander c'est quoi. » Alors, je vous dis, c'est ça, le Seigneur nous confie cette mission de répandre le message de l'Évangile et de façon massive, de se multiplier, de grandir, de gagner des gens à Jésus-Christ. Parce que le message, c'est le plus beau message qu'il n'y a pas sur terre, celle-là des portées éternelles, c'est majeur comme message. Vous savez, il y a certaines personnes, des fois, qui vont nous dire, « Moi, tu sais, je préfère les petites églises. » Et je comprends ce qu'ils veulent dire par ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est que moi, ce que j'aime des petites églises, c'est l'intimité. C'est qu'on se connaît. Et je peux comprendre ça, et certainement, j'apprécie ça. On a commencé une église, nous autres, à Laval, puis on était une poignée de main. On a commencé dans une cuisine, puis après ça, ça s'est multiplié. On a loué une garderie et tout ça. Et même, il manquait de place à un moment donné. La garderie était faite en L. Je pense de vous avoir déjà expliqué ça. En L, moi, je parlais ici. Puis là, ici, il y avait une porte patio à droite. Ça allait comme ça. Ça continuait comme ça. Il y avait une porte patio là-bas. Donc, il y avait des gens qui étaient assis là-bas, qui me voyaient à travers une porte patio, deuxième porte patio. Puis, finalement, il y avait le petit Joseph, dans le fond, qui parlait. Là. Il y avait quelqu'un. Là. Ça, c'était moi. Et c'est ça, l'Église grandit, c'est ça que le Seigneur veut. Il veut voir des gens, il veut voir l'Église grandir. Donc, pensez-y juste un instant. Là. Je sais que les gens ne sont pas intentionnels lorsqu'ils disent ça, ils veulent le beau côté des petites églises. Mais en même temps, il faut se rappeler d'une chose, ça va tout à fait à l'opposé, cette mentalité-là, à l'opposé de la mission que le Seigneur nous confie. Parce que, regardez l'implication de dire, moi, je préfère être dans une petite église, puis je préfère que mon église reste petite. Tu es en train de dire, bien, dans le fond, je veux pas que le Seigneur sauve trop de monde. Puis je veux pas que le Seigneur ajoute du monde à l'église. J'aime pas ça, trop de monde. Et j'ai vu des gens dire ça. Moi, je me rappelle dans une église où j'étais, des gens étaient... C'était, ça dérangeait. Il y avait du nouveau. C'est qui ça? Puis, fatiguait. Puis ça donnait, même à un moment donné, il y a eu plusieurs personnes, une quinzaine de personnes qui sont converties, qui sortaient du milieu de la drogue, puis c'était des gars tough. Un gars a fait 9 fois la prison, des gens, ça a coke, puis là, ça rentre dans l'église, ils sont tous habillés. Mon ami, c'est comme du cuir, tu sais, les gros bessiques dimanche matin, tout ça. On est une petite église. Alors, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens dans l'église qui étaient vraiment à l'aise, puis ils disaient, moi, c'est normal, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça dérange. Le Seigneur nous confie cette mission-là de répandre l'Évangile, de nous multiplier, puis de voir une tonne de personnes venir au Seigneur. Bon, on sent que toutes les églises se remplissent, qu'il y ait trop de monde, puis que ça nous dérange, puis qu'on construise, puis qu'on élargisse. Amen! C'est ça que le Seigneur nous demande, d'être une église virale, une église qui se multiplie, qui gagne des âmes au Seigneur. Comment on fait ça? On se pose la question, comment tu fais ça? Bien, on a 2 options qui s'offrent à nous autres. Premièrement, tu regardes d'autres églises virales, puis tu vas les voir, puis tu dis, « Hey, franchement, c'est beau de voir tout ce qui se passe chez vous, puis tu poses des questions, puis tout ça. » D'ailleurs, on a une réunion à Montréal, on est un groupe de pasteurs, puis les frères ici, les pasteurs, s'en vont à Montréal, même jeudi. C'est bien ça, Alex? C'est jeudi, oui. OK, alors, on a une réunion avec les pasteurs de Montréal, puis on s'échange, puis il y a toutes sortes d'affaires, les gens partagent les belles choses qui se passent et tout ça, et on trouve ça beau, c'est bon. Bon, ça, c'est la première option. Tu te colles à un chrétien viral ou à une église virale, puis tu apprends. Et il y a une 2e option, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Hein? C'est une autre bonne façon d'apprendre. Par exemple, moi, je suis rendu... Moi, j'ai fait des erreurs. Moi, je suis pas un gars de construction. Alors, j'aime ça un petit peu, bricoler, pis tout, mais tu sais, quand ça devient un peu technique, tout ça, Fait que moi, je me rappelle, il y a quelques années, je restais à la Rive-Sud, puis il avait construit, James va connaître ça, un rough-in, toute l'installation de plomberie, pour qu'on ait une toilette en bas, tout ça, dans le sol. Mais il y a trop de monde chez nous pour avoir une toilette dans le sol. On s'est dit, écoute, on a besoin d'une chambre, plutôt. Fait qu'on va convertir ça en une chambre. Fait que moi, je regarde ça, il y a un tuyau qui sort, c'était le tuyau d'égout de la toilette. T'sais. Ça sort du ciment, le plancher n'était pas encore fait. Je regarde ça à peu près 6 pouces, sorti. Moi, je regarde ça, puis je dis, ouais, ça doit pas être compliqué de défaire ça. Fait que j'imagine, fais un trou autour, casse ça, casse le ciment, scie ça un peu. Pas pire, hein? Scie, mets un cap, tout ça. Bon, je m'en vais dans une quincaillerie dans la Rive-Sud, grosse quincaillerie que vous connaissez très bien. C'est dans les grosses quincailleries. Puis, je rentre là, Puis, je m'en vais dans l'allée de la plomberie, puis j'ai dit, juste pour confirmer, puis j'ai dit, écoute, je veux acheter des pièces, là, puis tout ça. Je suis correct, mon affaire, moi, là, j'ai un rough-in et tout ça. Et on scie ça, puis on met un cabot, t'as besoin d'un cap, aucun problème, puis c'est beau, puis tu mets du ciment après. Ben, parfait. Ben, tu sais, trouver de l'argent. Plombier, 400 pièces. Pour trouver de l'argent, ben, je fais ça moi-même. Alors, je m'en vais au magasin de location, je me loue une, comment t'appelles ça, James? Hein? Marco, oh, en français? Oh, oui, marteau piqueur. Fait que, alors, je fais ça, tu vas prendre des photos, je demande à ma femme, chérie, prends une photo. C'est comme, j'avais quasiment le goût de m'acheter un casque de construction, juste pour l'occasion. Fait que là, je fais des trous, tout ça. J'ai même passé à ma femme, imagine-toi là, puis j'ai dit, là, chérie, on prend une photo. Fait que, alors, on prend une photo, tout ça, on fait ça, je coupe ça, je scie ça, je mets le cap, boum, mets le ciment, je regarde ça. Bon, OK, j'avais un petit peu trop de ciment, là, ça faisait une petite bosse. Bon, OK. À part de ça, c'était pas pire. Alors, les années passent, là, je vais à la maison, puis tout ça, puis d'un coup, je suis chez nous, je reçois une mise en demeure. Je regarde la mise en demeure, puis tout ça, et ça donne que ce fameux trois pieds-là que j'ai rafistolé, puis j'ai arrangé, moi, je savais pas un gars de construction. James aurait su ça, mais pas moi. Fait que, ça veut dire qu'il faut mettre une toile. Faut mettre du plastique par-dessus la plomberie. Plastique avant le ciment. Vous savez, quand tu casses du ciment, tu as du plastique dans le sol. Là, j'ai compris pourquoi. Ça l'empêche l'humidité de sortir, faire la moisissure, et tout ça. T'sais. Mais moi, je ne sais pas. Comme ça. Là, la moisissure a commencé à sortir à travers le plancher, à travers le ciment. C'est vrai que c'est conducteur. Ça passe à travers le bois, puis tout. Et ça a tout passé. Fait que là, le propriétaire de la nouvelle maison, il aurait pu comme couper juste le petit bout, ben non, il arrache ça, comme il est comme moi, il arrache ça, puis là, ça a l'air que les spores sont partis dans les airs. Son bébé avait de l'asthme, était au troisième étage, et là, ça s'est répandu dans la maison. Là, elle a fait venir une compagnie spécialiste pour analyser la qualité de l'air et tout ça. Et 20 000 $ après. Est-ce que je peux vous dire que si quelqu'un vient me voir, il dit normalement, j'ai besoin des conseils de plomberie. Qu'est-ce que je vais lui dire? Appelle, touche pas à ça. Appelle un plombier. Électricité, plombier, excavation de fondation, touche pas à ça. Des joints, aucun problème. Je vais aller en faire chez vous si tu veux. Tu peux. Ouais, il va peut-être avoir une coupe de bosse, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas dangereux, c'est pas grave. Mais pour sauver 400 $, trois pieds, ça a coûté 20 000 $. On peut apprendre des erreurs des autres. Connaissez-vous le dicton qui dit, il est sage, celui qui apprend de ses erreurs. Il est plus sage, celui qui apprend des erreurs des autres. Il est fou, celui qui n'apprend ni de l'un, ni de l'autre. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va apprendre, parce que c'est très sage d'apprendre des erreurs des autres. Donc, on va aller regarder une église dans le Nouveau Testament, et on va aller voir ses gaffes, ses erreurs, et comment Paul va intervenir et va emmener l'Évangile à travers 11 problèmes de l'église. À imaginer. Il y a des gens qui disent c'est mieux une petite église. Il me semble c'est mieux. Maintenant, moi, j'ai rien contre des petites églises. J'ai passé une bonne partie de ma vie chrétienne dans des petites églises. Aucun problème. J'aime ça aussi. Mais je veux qu'elles grandissent. Je veux voir des gens venir au Seigneur. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est mieux une petite église. Ah oui? Moi, je vais vous présenter une petite église. Une église de 50 à 60 membres. Assez petit. Il y avait 11 problèmes. Écoutez bien, il y avait des gens qui étaient pactés, des gens qui se soulaient dans l'église. Écoute, il y a juste 50-60 personnes. À un moment donné, tu fais le tour assez vite. Des gens se pactaient, certains s'emmenaient en justice, se poursuivaient, s'envoyaient des poursuites, les uns avec les autres. Mais maintenant, 50-60 personnes, c'est à peu près ça, Gilles? C'est un carré comme ça, là? À peu près? Mais maintenant, vous vous emmenez en justice, vous poursuivez. Il y en avait qui couchaient avec sa belle-mère, d'autres couchaient avec des prostituées. Il y a des petits groupes, là. C'est mieux. Non, non, non. Ça a l'air vraiment pas bien, là. Non seulement ça, cette église-là a été commencée avec le meilleur implanteur d'église de l'histoire. C'est l'apôtre Paul lui-même qui a commencé l'église. On le voit l'histoire dans Actes 18. On parle évidemment de l'église de Corinthe. Il rentre là, à Corinthe, commence à prêcher l'évangile, tout ça. Il y a quelques personnes qui viennent au Seigneur. Et ils prennent soin d'eux. Et ils les baptisent et tout ça. Prend soin. La communauté devient assez importante qu'ils peuvent commencer une église. Et il reste là pendant 18 mois à s'occuper d'eux. Et là, tout d'un coup, il part pour partir d'autres églises. Et juste 3 ans après environ, on n'est pas sûr, 3-4 ans après, pas tellement longtemps après, là, il reçoit des nouvelles de l'église. Puis les gars, ils disent, hey, écoute, ça n'a pas d'allure, Paul. Hey, ça va tellement mal. Ça va mal. Fais quelque chose. Puis ça va tellement mal que, non seulement ils ont des divisions dans l'église, ils ont commencé même à mépriser l'apôtre Paul lui-même. Voyez-vous, c'est une église qui est jeune, dynamique, puis la ville de Corinthe, c'est une ville bien dynamique. Ça réussissait, là. Si tu voulais devenir riche, tu étais à Corinthe. C'est une église portuaire, c'est une ville portuaire, premièrement. Alors, c'était le carrefour des voies de transport. Plusieurs touristes allaient là, ça roulait l'affaire. D'ailleurs, c'est Gordon Fee qui donne une belle image. Il dit, écoutez, si vous voulez comprendre la ville de Corinthe, prenez 3 villes. Prenez New York, Los Angeles, prenez Las Vegas. Les 3, prenez tout ça, là. Mettez ça dans une seule ville et vous avez la ville de Corinthe. Ça vous donne juste une idée, hein? Les jeunes allaient à Corinthe, tiens, c'était plein, plein de commerce. Tellement de commerce, d'ailleurs, qu'on savait plus quoi en faire. Il y avait même trop de commerce. Ça avait même rendu un problème à gérer tous les business. La ville devait composer avec ça. C'était gros. Ça roulait, l'affaire. Alors, tu voulais devenir riche, tu allais à Corinthe. C'était la place à aller. Alors, mais là, Paul doit intervenir pour essayer d'aider l'Église, une Église qui est jeune, dynamique, ça roule là-dedans, mais là, ça critique Paul, ça dit, écoute, nous autres, on est intelligents, on n'a pas besoin de ton aide, tu n'as pas besoin de venir ici, puis ça se chicanait, ça saillissait dans l'Église, ça allait vraiment, c'était horrible, c'était épouvantable. Maintenant, Paul a 2 défis. 2 défis à essayer d'intervenir pour aider cette Église-là. Premièrement, Paul doit régler des problèmes. Dans un contexte où les gens saillissent, il y a des divisions, des camps, différents camps dans l'Église. Comment tu fais ça? Donc, il doit intervenir de manière à favoriser de la réconciliation entre certains membres de l'Église, mais lui-même n'a plus d'autorité à leur égard. Certains le méprisent, doutent de lui, n'ont plus confiance en lui, sentent qu'il peut absolument rien apporter. Donc, il doit le faire avec délicatesse et encourager la réconciliation entre certains membres de l'Église, tout en étant ferme quand il doit le faire et corriger certaines attitudes dans l'Église. Mon ami, c'est un chef-d'œuvre de voir l'apôtre Paul leur parler et régler ces problèmes-là. 2e défi, c'est qu'il doit convaincre les Corinthiens de changer leur façon d'agir et changer leurs convictions aussi. Certaines croyances qu'ils avaient à l'égard de la résurrection et différents sujets aussi, c'était tout mêlé. Donc, il doit essayer d'arranger tout ça. Donc, c'est tout un contrat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va avoir la job, mais c'est vraiment pas évident, là. Imaginez intervenir dans une situation de crise où tu dois réconcilier, mais aussi reprendre des gens, et ils te respectent pas pantoute en même temps. Et ça, c'est la raison pour laquelle certains tirent la conclusion qu'il n'y a aucune autre lettre ou aucun autre livre dans le Nouveau Testament, dans tous les écrits de l'apôtre Paul, aucun autre livre qui montre autant la personnalité de l'apôtre Paul en tant qu'homme, en tant que pasteur, serviteur, en tant qu'enfant de Dieu et comme apôtre. Cette lettre donne du crédit à l'invitation que Paul va leur lancer de le suivre, de l'imiter, parce que lui-même suit Jésus-Christ. Ça donne du crédit, ça donne de la substance à l'invitation qu'il leur envoie. Les croyances des Corinthiens, leur style de vie menaçait l'intégrité de l'Évangile. Maintenant, il y a 2 manières de menacer l'intégrité de l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Il y a 2 manières de bloquer l'œuvre que le Saint-Esprit aimerait faire à travers nos vies, à travers notre Église. La première manière, évidemment, c'est avec des fausses doctrines. Si on laisse aller les fausses doctrines, on commence à croire à toutes sortes de choses, évidemment, ça va altérer, ça va endommager l'intégrité et la puissance de l'Évangile. Et c'est ce qui est arrivé aussi à certaines églises, et notamment celle-ci. Mais la deuxième manière, c'est par notre façon de vivre. Et il y a deux extrêmes de ce côté-ci. Il y a le légalisme d'un bord, puis il y a le laxisme de l'autre où, bah, tout est permis, let's go, on y va, on en profite. Eh bien, les chrétiens de Galates sont un exemple du légalisme. D'ailleurs, Paul doit intervenir parce que certains membres de l'Église poussaient pour que les chrétiens qui se convertissaient, qui n'étaient pas juifs, commencent à suivre les lois du judaïsme. Dans le fond, c'est un mélange de l'Évangile et qu'on revienne aussi à un système de relation avec Dieu bâti sur les œuvres. Alors là, Paul doit intervenir, et c'est ce qu'il fait dans Galates. Laissez-moi juste vous lire ce passage dans Galates 1, 6, qui dit ceci. Paul va intervenir, il leur dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » C'est grave. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, à l'autre extrême, c'est l'Église de Corinthe, où tout était permis. Eux autres avaient une philosophie que, ben, dans le fond, on peut faire pas mal ce qu'on veut maintenant, c'est la liberté chrétienne. Il y a une fausse doctrine qui circulait dans l'Église de Corinthe que la Sainte Cène et le baptême étaient c'est des rituels quasi magiques qui te permettaient de faire n'importe quoi avec ta vie. Je ne sais pas pourquoi, eux autres, je ne sais pas comment ça s'est glissé là, mais eux autres, ils ont l'impression que la table du Seigneur, le repas du Seigneur, tu prends ça, puis tu te fais baptiser, puis là, c'est quasi magique. Le reste, la manière que tu vis ta vie, c'est vraiment pas important. Alors, Paul doit intervenir pour corriger ces erreurs-là qui circulaient dans l'Église. Mais tous les problèmes de l'Église de Corinthe montrent le besoin de répondre à une plus grande question qui est là, qui traîne à travers chaque chapitre de la lettre de Corinthe. Voyez-vous, il va y avoir 11 problèmes auxquels Paul va s'adresser, qu'on peut regrouper dans le fond dans 5 gros problèmes, et on va les voir. Mais il y a une question derrière ça qui affecte tous les autres problèmes, et c'est celle qui va surgir, et c'est à ça que Paul doit répondre à travers les différents problèmes. C'est quoi être spirituel? Parce que voyez-vous, pour les Corinthiens, ils avaient une notion, une perception de la spiritualité qui était tout à fait contraire, et qui s'éloignait beaucoup de l'enseignement de l'Évangile. Alors, Paul va écrire et il va adresser chacun des problèmes et il va montrer comment l'Évangile règle le problème. En d'autres mots, il va appliquer l'Évangile à chacun des problèmes. Chaque fois qu'il commence à parler d'un nouveau problème, c'est toujours la même formule qu'il va suivre. Il va nommer le problème et ensuite il va montrer comment l'Évangile vient restaurer ce problème-là. En d'autres mots, Paul est en train de les emmener à voir chaque aspect de ta vie à travers la lentille de l'Évangile. Et c'est ça qu'on a besoin de faire, d'adopter, de s'habituer, de développer cette discipline et ce réflexe de voir chaque domaine de notre vie à travers l'Évangile. Donc, il y a différents blocs. On va résumer ça juste avec 5 blocs, d'accord? 1 Corinthiens en 5 blocs. 1, les divisions. Alors, il va parler de l'unité. Premier problème, premier bloc, division. Évidemment, il y avait des divisions dans l'Église de Corinthe. 50 personnes, mais l'Église est divisée pour toutes sortes de raisons. Et ils sont divisés aussi en raison du leadership. Il y a une crise de leadership au sein de l'Église. Ils ont même commencé à mépriser l'apôtre Paul lui-même, imaginez, le fondateur de l'Église. Alors, Paul va commencer sa lettre et va consacrer 4 chapitres de la lettre aux Corinthiens, un pour se défendre, pour réaffirmer son autorité, mais aussi de parler de l'importance de l'unité au sein de l'Église. D'ailleurs, ces 4 chapitres sont 4 chapitres très puissants sur l'unité de l'Église. Et ce que Paul va faire, c'est qu'il adresse cette question-là avec l'Évangile. Il dit essentiellement que Jésus devrait être au centre de notre unité. Et vous savez, il y avait du favoritisme entre les prédicateurs, les enseignants et tout ça. Et Paul, il dit, écoute, il dit, bon, il n'y a pas de problème avec les préférences, c'est correct. Mais le problème n'est pas avec les préférences. Le problème, c'est lorsque tu commences à mépriser d'autres. Et c'est ce qui arrivait. Ils commençaient à mépriser les enseignements de l'apôtre Paul. Donc, ils rejetaient Paul et rejetaient même ses enseignements. Lui qui était inspiré du Saint-Esprit, imaginez. Donc là, il va tout leur montrer que nous sommes tous des serviteurs. Tous les enseignants, tous les moniteurs, monitrices. On est tous là, dans le fond, pour le Seigneur Jésus-Christ. Et on est juste des serviteurs. Jésus devrait être au centre de notre Église et de notre unité. Deuxième bloc, c'est la sexualité. Je vous ai dit tantôt comment on était rendu à percevoir la sexualité comme c'était, mon ami, c'était, il n'y avait plus de limites, c'était pas grave. Et il y avait un gars qui couchait avec la belle-mère, sa belle-mère, il y avait un autre, il y avait d'autres personnes qui couchaient avec d'autres membres, d'autres personnes couchaient avec des prostituées. Et ça allait vraiment pas bien au niveau de la sexualité. Maintenant, je peux vous dire que ça, c'est très pertinent pour nous autres en 2016, avec toute la pornographie. Tu n'as pas garde d'ouvrir un magazine, bon sens, sans qu'il y ait des illusions sexuelles. Tu n'as pas garde d'ouvrir la télévision sans qu'il y ait des illusions sexuelles. Ces chapitres-là sont vraiment actuels et pertinents pour nous autres. Et Paul va vraiment adresser des questions importantes et majeures à travers ces chapitres-là. L'Église de Corinthe avait aussi, la ville de Corinthe, comme l'Église de Corinthe, avait des problèmes d'immoralité sexuelle. Le hic, c'est une chose qu'un frère, une sœur tombe. Ça, c'est une chose. Mais l'Église faisait rien. Et l'Église croyait, pas juste qu'il faisait rien, il croyait que c'était correct. Imagine quand t'es rendu là. Il croyait que c'était pas grave d'aller coucher avec des prostituées. Ben, non, c'est pas grave, ça. On est spirituel. C'est pas grave. Fait que Paul est en train de dire, aïe, aïe, non, ça marche pas comme ça, là. Paul, parce que les autres bâtissaient ça, leur croyance sur la liberté chrétienne. Alors, Paul va donc attaquer cette mentalité-là avec l'Évangile, encore une fois. Et son point, c'est, si Dieu vous a sauvé de votre ancienne vie, et il vous a sauvé, il vous a sorti d'une vie de péché, de débauche, d'une vie centrée sur le moi, il vous a sorti de cette désolation humaine dans laquelle vous vous trouviez, alors la pureté sexuelle est au cœur même d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est au cœur même de l'Évangile. Nous sommes une nouvelle créature maintenant en Jésus-Christ. On a une nouvelle nature et ça va affecter directement ta vie sexuelle, ta pureté, ta sainteté sexuelle. Et à travers cette section, Paul va donc essentiellement dire qu'on ne doit pas faire de compromis en regard à notre sexualité dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Si on veut être un chrétien viral, une église virale, un enfant de Dieu qui marche avec Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire de compromis en regard à la vie sexuelle. Et on va regarder tous ces chapitres-là. Ça parle du mariage, du célibat et tout ça, des passages très intéressants, quelques passages difficiles, mais on va passer à travers. Troisième bloc, c'est la bouffe. Maintenant, Paul n'est pas en train de dire de faire un cours de nutrition et tout ça, dire, regarde, c'est mieux les légumes verts, etc. Tout ça. Pas en train de dire, c'est-tu mieux la Pepsi, le Coke, Big Mac, Harvey's, tout ça. Absolument pas. Il y avait un problème à cette époque-là. C'est qu'il y avait des... Il y avait 26 sites religieux, saints, dont plusieurs temples, et les gens, dans leur culte d'adoration, allaient offrir des sacrifices. C'était tous des faux dieux, évidemment, des idoles et tout ça. Ils prenaient toutes sortes de formes. Mais on prenait, dans notre rythme d'adoration, on allait là, puis on espérait que ce Dieu-là nous bénisse. Alors, ce qu'il faisait, ils offraient un sacrifice, un animal en sacrifice qu'il offrait. Et une portion de cet animal-là qui restait, on l'envoyait au marché, qui était pas loin du temple, au magasin, puis il le vendait meilleur marché. Donc, il pouvait avoir, je ne sais pas moi, du 2 pour 1, puis ça, en gros spécial, viande hachée cette semaine, puis tout ça. Et c'était la viande qui avait été sacrifiée aux idoles qui restait et qu'ils vendaient à bon marché. Un peu comme si tu allais au Maxi, puis il y avait une section, là, vente pas chère, viande pas chère, vendue, sacrifiée aux idoles, moitié prix, 2 pour 1. Bon, là, il y avait des chrétiens d'église qui disaient, ben, c'est pas grave, moi, je me suis converti maintenant, puis tout ça, les idoles, c'est rien, ça, c'est du bois, Fait que, alors, eux autres, il n'y avait aucun problème. La liberté chrétienne, on s'en va dans ces magasins-là, on paye moins cher, on va sauver de l'argent, tout ça. Puis ils achetaient la nourriture, la viande là-bas dans ces marchés-là. Alors, eux autres n'avaient aucun problème dans leur conscience. Mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment offensés parce qu'ils venaient de ça, de ces anciennes habitudes dans leur vie. Eux-mêmes, dans certains cas, offraient des animaux en sacrifice et ils se sont convertis, ils sont sortis de ce milieu-là. Donc, lorsqu'ils voyaient des chrétiens dans l'église aller acheter de la nourriture qui avait été offerte en sacrifice, mon ami était scandalisé. Et là, ça faisait comme tout, là, ça se jugeait, ça se critiquait et tout ça, sur des points comme ça. Donc, là, vous allez dire, ben oui, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Normalement, il dit, demain matin, moi, j'irai pas chez Maxi acheter de la viande sacrifiée aux idoles. Alors, moi, ça me concerne pas vraiment. Je pense pas vraiment que cette section-là. Je vais vous donner les dates si vous voulez manquer, mais c'est vraiment une erreur. Parce que, vraiment très pertinent, en fait. Parce que la question, vraiment, la question qui est derrière tout ça, la question porte sur une question bien importante. Comment vivre dans une société multiculturelle dans laquelle on se retrouve avec un pluralisme religieux? Mes chers amis, on est toujours en train de parler de ça dernièrement, pas vrai? C'est quoi les accommodements raisonnables et tout ça? On est plongé dans ça. Et Paul va donner des principes à l'intérieur de ce passage-là, vraiment utiles pour nous, comment être une église qui vit dans une grande ville, dynamique, multiculturelle, plusieurs nationalités. Comment on vit notre vie chrétienne dans ça? Et comment on vit dans une église? Comment on veut favoriser l'unité dans l'église lorsqu'il y a différentes convictions à l'endroit de différents sujets? On veut avoir des convictions sur les doctrines essentielles. La Bible, évidemment, on veut faire le compromis là. Mais il y a des questions qui sont peut-être un peu moins sérieuses pour certains, plus sérieuses pour d'autres. Alors, sur ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait? Paul aborde ces questions-là. Parce que la ville de Corinthe était une ville multiculturelle. Corinthe était une ville où il y avait plein de religions. Comme je disais tantôt, 26 sites sacrés, dont plusieurs temples. Et à l'époque de Paul, la ville de Corinthe était riche et prospère, comme on disait tantôt. C'était un centre d'affaires. Et il y avait plusieurs personnes, plusieurs nationalités qui allaient là. Et c'est une ville portuaire, une ville clé. Ça roulait sur l'or. Et comprendre la ville de Corinthe, on va comprendre aussi l'Église. C'est pour ça que c'est important qu'on s'assoie sur la, qu'on regarde c'est tout cet arrière-plan historique de la ville de Corinthe à travers notre série qu'on va faire dans la lettre de Corinthe. Parce que l'Église est un reflet de la société, pas vrai? Et nous aussi, on vit dans des grandes villes et c'est important de se rappeler. Écoutez, Gatineau, c'est une très grande ville, toute la région. Comment être une église virale, comment être un chrétien viral dans une société comme la nôtre? On sait que Corinthe, c'était comme ça. Dans Corinthiens 12, Paul dit qu'il y a des gens qui sont libres, il y a des gens même qui sont esclaves, il y a des gens qui sont riches, qui sont pauvres, il y a des juifs, il y a des non-juifs. Alors, c'était multiculturel. Alors, comment vivre comme enfant de Dieu dans un tel contexte où Dieu va être glorifié et l'Église sera une bénédiction? Alors, c'est une question très importante parce que la plupart des gens vivent, de plus en plus en tout cas, dans les grands centres, dans les grandes villes. C'est Albert Muller qui a dit ceci, il dit, voilà qui est clair, c'est dans les villes que sont les gens. En moins de 300 ans, dit-il, nous sommes passés. Alors, lui, c'est un Américain, et il dit nous, alors il fait référence probablement aux États-Unis. Alors, en moins de 300 ans, nous sommes passés d'un monde où seulement 3% des gens vivaient en ville à un monde où 80% résident en milieu urbain, dans les grandes villes. Et mondialement, la moyenne, c'est 52% dans le monde entier maintenant vivent dans les grands centres, dans les grandes villes. Et Albert Muller va continuer en disant, si l'Église chrétienne n'apprend pas de nouveaux modes de ministère urbain, nous allons nous retrouver relégués au rang de spectateurs. L'Évangile de Jésus-Christ doit appeler une nouvelle génération de chrétiens engagés à se rendre dans ces villes. On n'a pas vraiment le choix. Et mes chers amis, c'est la mission que le Seigneur nous a confiée, pas vrai? D'ailleurs, c'était très intentionnel pour l'apôtre Paul d'aller dans les grandes villes pour annoncer l'Évangile. Lorsque Paul est allé à Corinthe pour prêcher l'Évangile, c'était très réfléchi, très intentionnel, parce qu'il savait que si Corinthe prenait l'Évangile, ça allait se répandre dans tous les villages autour. Et c'était pour avoir un impact beaucoup plus loin que la ville. Alors, Paul va nous aider à naviguer dans un monde multiculturel. Et encore une fois, il va le faire avec l'Évangile. Et on a besoin, nous aussi, d'apprendre comment communiquer l'Évangile ici à Gatineau. Quatrième bloc, c'est les dons. Évidemment, tout ce grand bloc-là fait référence à comment on célèbre le Seigneur le dimanche matin. Ça a rapport à la célébration du dimanche matin. Il y a eu plusieurs questions au niveau de la table du Seigneur. Il y a eu vraiment des déchirures, des riches et des pauvres. Il y a des gens qui étaient ivres, qui étaient pactés, imaginez-vous, pendant le temps du repas du Seigneur. Donc, il va toucher la question des femmes aussi, parce qu'il y avait tout un mouvement de la nouvelle femme, ce que les historiens appellent la nouvelle femme. Les gens aujourd'hui vont appeler ça le féminisme. Alors, comment une femme de Dieu chrétienne doit naviguer, doit réagir face à ces mouvements modernes de la libération de la femme? Il y a des bonnes choses, il y a des choses qui faisaient longtemps qui étaient dues. Et d'accord, on va jusqu'où? Alors, l'apôtre Paul va vraiment toucher cette question-là dans 1 Corinthiens 11 pour que les femmes puissent comprendre leur rôle, leur importance, et c'est tout à fait magnifique ce qu'il va faire. Et il va emmener une fois de plus l'Évangile dans la perception de la femme pour arriver à la place où il dit, « Voici, mesdames, les enfants de Dieu, voici maintenant, vous êtes encore meilleures qu'une femme libérée, vous êtes maintenant une femme libérée en Jésus-Christ. » Et c'est tout un message glorieux, vraiment, 1 Corinthiens 11, qui donne l'impression de toucher le voile. C'est un passage qui est compliqué, le voile, mais au-delà de ça, il y a un beau message sur la femme. Il y a un élément culturel avec le voile, mais au-delà de ça, Paul va donner 6 points majeurs de beaux enseignements sur la femme libérée maintenant, la nouvelle femme libérée en Jésus-Christ. Alors, on va voir ça dans quelques temps ensemble. Et après ça, on tombe dans les 3 chapitres qui parlent des dons, les dons de l'Esprit. Vous voyez, les gens favorisaient à Corinthe les dons miraculeux, méprisaient les dons plus ordinaires, selon eux, qu'ils jugeaient ordinaires. Et Paul va donner l'image du corps. Il va dire tous les dons sont importants, même ceux qu'on ne voit pas. Donc, une belle image et encore une fois, un bel enseignement. Et ce qui va unir tout ce bloc-là, c'est 1 Corinthiens 13, qui est l'amour. Et c'est l'enseignement qu'il va donner, il va dire essentiellement qu'on n'est pas à l'Église pour chercher nos propres intérêts, mais on est là pour chercher les intérêts des autres, chercher l'utilité commune, pas juste nos intérêts, mais vraiment être des serviteurs au sein de l'Église. Et c'est ça que l'amour fait. Et 5e bloc, c'est la résurrection. Il termine ces 2 chapitres vraiment magnifiques. Il va conclure en donnant une bonne explication sur la résurrection parce que eux autres avaient des fausses doctrines sur la résurrection. Donc, il veut corriger ça. Il y avait beaucoup de confusion qui circulait. Alors, Paul va dire dans ce bloc-là que la résurrection est vraiment au cœur de l'Évangile et ça devrait nous conduire à l'unité. La résurrection de Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts devrait avoir un impact sur notre façon de nous percevoir les uns les autres, sur notre unité. Ça devrait avoir un impact dans chapitre 1 à chapitre 4. Ça devrait avoir un impact sur notre sainteté, chapitre 5 à chapitre 7, à notre liberté chrétienne, comment on perçoit la liberté chrétienne, chapitre 8 à 10, et le tout empreinte d'amour, chapitre 11 à 14. Donc, les chapitres 15 et 16 est une présentation puissante comment la résurrection de Jésus-Christ est au cœur vraiment de l'Évangile. Alors, 5 grands blocs, mais ce qui unit le tout, c'est que Paul regarde chaque aspect de la vie et il pose la question, comment puis-je regarder cet aspect-là de ma vie à travers la lentille de l'Évangile? Vous voyez? Alors, c'est majeur comme lettre. C'est tellement majeur et important. Donc, on va commencer juste à lire avec quelques versets. Ce n'est pas long, c'est juste une intro. Ce matin, je vais faire un survol. Après ça, on va rentrer plus directement dans les prochaines semaines. Pas la semaine prochaine. Manquez pas la semaine prochaine. Service de baptême. Beau service, c'est toujours édifiant et bénissant, des gens qui vont se faire baptiser aux 2 services. Il va y avoir des gens aux 2 services qui vont venir. Et c'est pas défendu que vous restiez aux 2 services. Il y a des gens qui choisissent de rester aux 2 services pour entendre tous les témoignages. Absolument, vous êtes le bienvenu. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Moi, j'aimerais juste vous lire les 9 premiers versets. On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, on fait juste introduire. Alors, la question est celle-ci. Rappelez-vous maintenant du contexte de Corinthe. Rappelez-vous la tension qui existe. Rappelez-vous que ces gens-là, maintenant, même certains méprisent Paul. Paul n'a plus beaucoup d'autorité, là. Alors, regardez bien comment il va commencer la lettre, parce que la façon qu'il va commencer son livre, il met la table. C'est l'ABC avant d'affronter et de plonger dans tous les problèmes auxquels il devra faire face à travers la lettre. Il met la table dans les 9 premiers versets. Et c'est majeur. Et il répond à la question, comment être un chrétien viral? Comment être une église virale? Dans les quelques versets. Alors, très vite, on regarde ça. Verset 1. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Je dis constamment, mon Dieu, toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, c'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment être une église virale? Comment être un chrétien viral, puissant, qui va faire une différence, qui va avoir un impact? Eh bien, la question... Paul répond, premièrement, nous avons tous besoin de leaders spirituels. Avez-vous remarqué comment il commence déjà au verset 1? Regardez ce qu'il dit là. Il dit, de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des leaders spirituels, notamment avec les apôtres. Les apôtres, c'est unique, il n'y en a plus aujourd'hui. Et ils avaient une onction spéciale pour accomplir ce ministère et écrire des lettres du Nouveau Testament. Mais néanmoins, ce qu'on va retracer, ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, c'est constamment l'importance de se coller à quelqu'un qui a plus d'années que toi dans le Seigneur, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Tu te colles à lui ou à elle et tu restes enseignable. Tu veux apprendre, tu veux l'imiter, tu veux le suivre, tu veux marcher comme lui ou comme elle. As-tu quelqu'un dans ta vie, un leader spirituel auquel tu es redevable et enseignable et que tu es un cœur ouvert, tu dis, je te donne ce droit-là d'intervenir dans ma vie et de m'accompagner pour m'aider à grandir dans le Seigneur. Parce que moi, je veux être un chrétien viral. Nous avons tous besoin de leaders spirituels dans notre vie. On a tous besoin, qui qu'on est, on a besoin vraiment d'avoir quelqu'un dans notre vie qui a plus d'années dans le Seigneur, ou de maturité en tout cas, dans le Seigneur, qui va s'investir dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Paul va commencer en réaffirmant évidemment son autorité spirituelle, car il est contesté, même si lui est le fondateur de l'Église. Mais malgré ça, il y a une leçon tellement importante ici, déjà dans les premières lignes. Paul est en train de leur demander de se conformer, de revenir à lui, à ses enseignements, à son évangile, et le suivre. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, dit l'apôtre Paul. Et nous avons besoin de suivre des hommes et des femmes de Dieu. On veut se tenir avec des gens qui aiment le Seigneur. Amen. Parce qu'on veut grandir. Alors, on veut devenir un chrétien solide, viral, en ayant des leaders spirituels, auprès desquels on va être enseignable. On a besoin de se rappeler de deuxième chose. C'est déjà dans les premières lignes, Paul va rappeler à qui appartient le Seigneur. Regardez bien verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. appelés à être saints, à tous ceux qui sont partout, font appel au nom du Seigneur Jésus, leur Seigneur et leur nôtre. Voyez-vous, le Seigneur 2, le verset 2 dit à l'Église de Dieu. À qui ça appartient, l'Église? On dit que c'est évident, hein? Ben oui, on le sait tout, hein? Ça appartient au Seigneur. Mais pourtant, quand tu regardes, on en est. Ce qui arrivait à Corinthe, c'est que les gens tiraient à couvert de leur bord. Les célibataires disaient, hey, c'était nous à l'Église, là. C'est nous autres, l'Église. Les couples disaient, non, 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 c'était nous autres, l'Église. Les gens riches disaient, non, 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 t'es un peu, là, c'était nous autres, l'Église. Les gens pauvres disaient, non, 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 c'était nous autres, l'Église. Les gens tiraient à couvert. Et quand les gens commencent à faire ça, tirer la couverture chacun leur bord, comme si c'était leur Église, qu'est-ce qui se passe? Il y a des divisions dans l'Église. Et l'apôtre Paul dit, vous avez besoin de vous rappeler, frères et sœurs, que l'Église appartient, premièrement. Ça appartient au Seigneur. C'est l'Église du Seigneur. C'est pas mon Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, s'il y a des choses qui vont mal dans l'Église, et il y a des choses qui vont aller mal. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs. On est brisés à cause du péché. Lorsque le péché est rentré dans le monde, on est brisés. Nos relations sont brisées, affectées par la condition pécheresse de l'être humain. On est brisé. Alors, il va y avoir des brisures. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je me rappelle que l'Église appartient au Seigneur, ce que je vais faire, ce que je vais poser comme question devant le Seigneur, c'est ton Église. Ça va pas bien à l'Assemblée. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je pourrais retrousser mes manches puis intervenir pour essayer d'aider ton Église? Vous voyez, ça change. Ça change mon attitude lorsque je me rappelle que le Seigneur s'est acquise son Église par son propre sang. Regardez bien ce que dit Actes 20, 28. Faites donc bien attention. Et c'est Paul qui parle des anciens de la ville d'Éphèse. Il s'envole, il va quitter, puis il donne ses dernières recommandations avant de partir. Et voici ce qu'il dit. Il dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église appartient au Seigneur. Pas à moi, pas à toi, pas à personne autre que Jésus-Christ. Il y avait une femme qui, dans une église, était membre d'une église, puis elle a eu besoin d'une transfusion de sang très rapidement. C'est une question de vie ou de mort. Et là, les gens de l'église se sont mis ensemble et ils ont fait don de leur sang. Et plusieurs personnes, justement, sont intervenues. Ils ont donné tout le sang dont elle avait besoin pour faire toute cette transfusion de sang. Et lorsqu'ils ont fait cela, après cela, ils ont remis une carte à la femme. Ils ont écrit quelque chose sur la carte et ça disait ceci. Nous avons donné notre sang pour toi parce que Jésus a donné son sang pour nous. Et l'Église a été acquise par Jésus-Christ lui-même parce qu'il a versé son sang sur la croix. Et il faut s'en souvenir. Dans mon attitude envers les frères et les sœurs de l'Assemblée, c'est son Église, c'est son épouse. Moi, j'aime pas ça quand quelqu'un vient critiquer ma femme. On dirait que je deviens agressif. Vrai? Tu sais, quelqu'un, tu sais. Et imagine-toi Jésus, là. Quelqu'un qui vient critiquer son Église. C'est son épouse, sa fiancée. Et en passant, les amis, on va passer l'éternité ensemble, là. Tout le monde s'habitue tout de suite, hein? On va être des milliards de chrétiens dans le ciel. Puis on ne sait pas, le Seigneur va peut-être te placer à côté de la personne qui ne clique pas du tout avec toi. Mais tu sais quoi? Dieu va changer ton cœur, il va changer son cœur, puis bon sang que vous allez vous aimer. Il va devenir, et tu vas devenir, la personne pour laquelle Dieu t'avait créé. Imagine, parfait, sans tâche. Ça va être glorieux, mes amis. J'ai hâte de voir ça, ça va être fabuleux. Non seulement qu'on a besoin de se souvenir qu'on appartient, que l'Église appartient au Seigneur, mais nous aussi on appartient au Seigneur. Et Jésus le rappelle, on appartient au Seigneur, tu appartiens au Seigneur. Verset 2, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Alors lorsque je veux critiquer un frère ou une sœur, j'ai besoin de me rappeler une chose, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous été, pour ceux qui sont venus à Jésus-Christ, sauvés par la grâce de Dieu. C'est un privilège que j'ai d'avoir été sauvé. Un privilège parce que je ne le mérite pas. J'étais détestable, haïssable, blasphémateur, et Dieu est venu quand même toucher mon cœur. Et tu sais qu'est-ce que ça fait, les pécheurs? Quand tu es brisé, tu brises le monde. Parce que le péché nous a brisés. Une femme a écrit un livre, elle dit ceci, je trouve ça vraiment intéressant. Elle dit, des gens brisés, là, brisent les gens. Des gens blessés blessent des gens. Des gens endommagés endommagent les gens. Des gens liés lient les gens. Mais le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu pour guérir ton cœur brisé et restaurer ton cœur. Et faire de toi une nouvelle personne. Et qu'est-ce que ça fait, une nouvelle personne en Jésus? Bien, des gens aidés aident les gens. Des gens guéris pansent les blessures. Des gens restaurés restaurent les gens. Des gens libérés guident les autres vers la liberté. Et si vous voulez voir une personne que la puissance de l'Évangile a transformé sa vie, si vous voulez voir ce que ça a de l'air, à quoi ça a de l'air, une personne virale que le cœur a été transformé par la puissance de l'Évangile, regardez l'apôtre Paul. N'oubliez pas l'attitude des gens à son endroit. Il le méprisait, il le critiquait, même n'avait plus aucun respect pour lui dans certains cas. Et pourtant, voici ce qu'il dit dans son introduction. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus. Mon souhait, mon désir, lui qui est méprisé, mon souhait, mon désir, c'est que Dieu vous fasse du bien. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que quelqu'un me critique. Ma chair. Et lui avait été critiqué, pas à peu près. On le méprisait même. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous savez quoi? Je souhaite tellement que Dieu vous fasse du bien. Vois-tu? La parole dit quelqu'un qui a été beaucoup aimé va aimer en retour. Lorsqu'on comprend l'Évangile, et à quel point Jésus, jusqu'où il est allé pour nous. Je vous dis, tu vas devenir un chrétien viral. On va devenir une église virale qui va avoir un impact. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Combien nous sommes reconnaissants. On te doit tout, Seigneur. Parce que toi-même, tu as pris sur toi la critique. Tu as pris le mépris. Tu as pris le blasphème sur tes épaules. Et tout ce que je méritais moi-même, qui était haïssable, tu l'as pris sur tes épaules. Tu es devenu détestable aux yeux de Dieu pour que moi je sois accepté et aimé. Alors en retour, Seigneur, j'aimerais pouvoir t'aimer, t'exprimer mon amour avec une attitude qui se consacre à ta parole, qui cherche à te plaire, à t'honorer dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie, Seigneur. Alors aide-nous, alors qu'on va passer à travers ce livre de Corinthe, où nous allons voir des choses parfois difficiles, mais certainement des choses bénissantes. Et nous voulons grandir à travers ce livre, que tu puisses nous enseigner, nous révéler la gloire de Jésus à travers ce livre, la beauté de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.